Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Pour commencer cette nouvelle année des lundis d'histoire, qui seront présentés aujourd'hui par Roger Chartier, Mozart. Cet adagio est celui du concerto numéro 23 de Mozart, interprété ici par Daniel Barenboim, un mouvement inséparable aujourd'hui des citations qu'en firent dans leur film Luigi Comencini et Terence Malick. Composé en 1786, ce mouvement, pudique et poignant, énonce une douleur personnelle, celle d'un Mozart qui ne se sent plus aimé et qui peut-être ne s'aime plus lui-même. Mais à suivre Norbert Elias, on peut entendre aussi ce mouvement comme le désenchantement d'un génie qui tenta, mais vainement, de transgresser dans sa vie, dans son œuvre, les dépendances imposées aux musiciens de son temps, aussi bien par le mécénat capricieux des princes que par les attentes conformistes des publics citadins. Il m'a semblé que ce croisement entre une souffrance intime et un mal-être social, était la meilleure introduction possible pour le livre, lui aussi pudique et poignant, qui nous retiendra dans cette émission transmise cet après-midi en direct. Ce livre a pour titre « La déchirure, souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle ». Son éditeur est Bayard et son auteur a une voix bien connue de vous, puisqu'il s'agit d'Arlette Farge. Elle poursuit avec cet ouvrage son voyage dans un autre XVIIIe siècle, pas celui ou pas seulement celui des philosophes, des doux plaisirs, de l'invention de la liberté, pour citer Jean Starobinski, mais un XVIIIe siècle qui est celui des vies minuscules, des contraintes subies et aujourd'hui des douleurs. Arlette Farge, à lire votre livre, on voit qu'il est habité, presque hanté par une question. Vous la formulez de cette manière. À quel type de consentement meurtrier, fut-il inconscient, obéissent des sociétés et quelle généalogie tracée à ce sujet? Comment ne pas reconnaître que cette étrange réalité physiologique qui fait partage des douleurs entre les classes, la peste, la petite vérole, les maladies vénériennes n'ont épargné personne, puisse au même moment, fabriquer non seulement quelque indifférence pour les innombrables blessures des pauvres, mais un consentement à leur perte par la conviction que quelque part, leur vie dure les a accoutumés à la souffrance. Le mot « consentement meurtrier » est fort, trop peut-être. Pourtant, il résonne dans la vie d'aujourd'hui avec acuité et tristesse. Est-ce que c'est cette indifférence ou cette contradiction entre une souffrance qui est universelle et une indifférence par rapport à la souffrance de l'autre qui a été le point de départ de cette écriture, mais qui, comme toujours dans vos livres, est fondée sur de longues heures de recherche.
Oui, je crois qu'au départ, surtout ce qui m'a vraiment obligée, j'allais dire, ou rendu nécessaire l'écriture de ce livre, c'est le saisissement qui m'a pris après avoir lu tant d'archives depuis tant d'années, entre justement une sorte d'avalanche de souffrance absolument incommensurable, on peut dire, lorsqu'on lit le livre, on peut être d'ailleurs éprouvé par leur lecture, que subissaient les classes sociales les plus défavorisées, face à des souffrances vraiment réelles, fortes, puissantes, terribles, qui étaient celles des aristocrates et dont ils se plaisent, et ils en ont raison, on le verra tout à l'heure, se plaisent à parler ou à écrire dans des correspondances. Et ce croisement très particulier entre deux états sociaux, des classes évidemment qui vivent dans des conditions sociales tout à fait confortables, et qui en même temps qu'elles souffrent la mort, comme certains d'entre eux le disent dans leur correspondance, qu'ils préféreraient même mourir que de subir ce qu'ils subissent par des maux de dos ou des maux terribles qu'ils décrivent, des maux d'estomac, et qui en même temps les empêche, ou c'est pas que ça les empêche, ils ne voient pas, ils sont aveugles à ce que pourtant, dans tous leurs voyages qu'ils ont pu faire, dans leur vie entière, ils ont pu constater tout au long des jours, en regardant la vie de la rue ou la vie des campagnes, à quel point souffraient les gens de labeur, les gens de peine ou les gens les plus pauvres. Et cette espèce de... Comment dire ? Ce que vous avez dit tout à l'heure, justement, est très juste. De partage universel de la souffrance. La souffrance qui rend quelqu'un parfois inaudible, sidéré et de toute façon pris lui-même par lui-même. Et qui ne peut pas voir celle des autres, non seulement parce que cela le dégoûte quelque part, la souffrance du pauvre dégoûte, c'est le mot qui est quelquefois employé, mais aussi parce que ces êtres pauvres n'existent pas vraiment en tant qu'êtres humains à leurs yeux.
Mais par deux fois, dans les pages où vous énoncez ce projet, ce point de départ du livre, vous employez le terme de généalogie, une référence évidemment à une perspective intellectuelle qui était celle de Michel Foucault, mais qui, comme toute généalogie, conduit au présent, ou commence avec le présent. Donc ce livre est sur le XVIIIe siècle, comme tous vos autres livres, ou presque, mais en même temps, il mène jusqu'à nous.
Oui, je crois que c'est une volonté tout à fait importante pour moi, parce que c'est rentrer dans ce champ du consentement meurtrier. Effectivement, je dis le terme est un peu fort, il n'est pas de moi, il est du philosophe Marc Crépon, qui a publié récemment aux éditions du Cerf un livre intitulé « Le consentement meurtrier », et qui parle d'aujourd'hui. Ce consentement meurtrier est cette espèce d'interrogation qui est la nôtre encore aujourd'hui, mille fois répétée, devant la douleur, je n'ose pas dire la douleur d'abord des pauvres, mais des extrêmement pauvres, de ceux qui sont couchés dans la rue, ou de ceux qui, plus que cela encore, meurent dans des conditions, et on le sait aujourd'hui, intolérables. De toute façon, pour moi, aller vers aujourd'hui, ça a toujours été le point de départ des questionnements que j'ai pu faire à l'histoire.
On a l'impression aussi que dans ce livre, cette indifférence des puissants aux plus démunis peut être aussi rapatriée sur une manière classique qu'ont eu les historiens d'aborder ces questions des douleurs, des souffrances, des peines pour les hommes et les femmes du passé. Une sorte de constat, certes attristé ou compassionnel, mais du constat de la banalité du mal, si j'ose l'expression, et qui fait que cette accumulation par laquelle vous avez commencé de souffrance, cette accoutumance, ferait que finalement, non seulement il y aurait cette indifférence des plus puissants par rapport aux plus démunis, mais que finalement, tout un chacun serait relativement indifférent au mal, à la douleur, à la mort, à la perte. Et c'est contre cette représentation qui finalement redouble dans le discours des historiens, une attitude, mais pas toutes les attitudes, du XVIIIe siècle, que vous avez aussi écrit le livre.
Alors d'abord, je voudrais confesser que je crois que j'ai participé à ces moments-là, quand j'ai étudié les groupes collectifs et les conditions de vie des familles ou des ouvriers, etc. Je pense avoir participé à une certaine époque à cette idée très forte qui avait cours dans l'historiographie de tout ce qui était événement collectif, groupe collectif, même si les archives me permettaient à chaque fois de donner des aspérités plus singulières. Mais je crois que j'ai été très frappée d'une part personnellement dans l'émotion dans laquelle je pouvais travailler sur les archives, mais aussi par la lecture du livre de Bernard Lahire et de sa façon dont à la fois sociologues et certains anthropologues d'ailleurs, dont un que je cite comme Albert Piette, mais il en est beaucoup d'autres, qui mettent en cause les sciences sociales de n'avoir pas voulu ou su ou pu, je crois qu'il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, approcher justement les événements les plus minuscules qui fait, je crois que c'est Albert Piette qui dans une citation très belle dit « Est-ce que vraiment les sciences sociales ont réussi à dire ce que les êtres ressentent et ce qu'est un ressenti d'un être ?» Et en même temps, il n'oublie pas, comme Bernard Lahire non plus ne l'oublie pas, le rapport très très important au monde collectif. Et qu'en fait, l'entrée au monde se fait à la fois par des comportements collectifs qui vous ont été inculqués, par l'intériorisation de conduites collectives, mais elle se fait aussi par la trame de votre existence singulière et de votre pouvoir émotionnel, ainsi que de la façon dont vous êtes placé dans la société. Et si vous êtes particulièrement mal placé, et souvent il y a une citation de Louis-Sébastien Mercier que je cite beaucoup dans le tableau de Paris, où il dit qu'effectivement il vaut mieux, lorsqu'on est blessé, être bien né pour avoir tout de suite des soins plutôt que d'être mal né. Donc il y a de toute façon, dès le départ, je ne sais pas si c'est une injustice, mais un autre rapport au monde qui se fait immédiatement après la blessure, la souffrance, la fatigue, l'ennui.
Mais là, vous venez de lier deux thèmes aux deux fils fondamentaux du livre. Le premier qui est, on y reviendra peut-être, parce que c'est ce que permet votre connaissance des archives, c'est d'introduire au plus près cette singularité d'une expérience, et là une expérience douloureuse, alors même que la tâche de l'historien ou du sociologue est de reconnaître quelles sont les conditions sociales dans lesquelles se produisent des situations dans lesquelles on souffre, et on souffre peut-être d'une manière universelle, mais différemment en rapport avec la raison de la souffrance. Et un autre fil ou un autre thème du livre qui est peut-être d'une critique contre ce qui a été un excès dérivé de l'inspiration fondamentale de l'histoire des mentalités, c'est-à-dire d'établir une radicale séparation entre eux, les hommes et les femmes du XVIe ou du XVIIIe siècle, et nous. Ce qui expliquerait peut-être la raison pour laquelle les historiens, attachés à une dimension collective, en même temps, produisaient cette idée qu'ils souffraient tellement qu'ils ne souffraient plus, qu'il y avait une indifférence au mal qui pouvait s'être établie par l'accoutumance, par la répétition. Et c'est contre cette radicale discontinuité que vous voulez aussi construire le livre, ce qui expliquerait pourquoi dans le livre apparaissent des citations magnifiques de philosophes comme Paul Ricoeur ou comme Emmanuel Lévinas, attachés l'un et l'autre à ce qu'il y a d'universel dans ce que Ricoeur appelle l'être homme, ce qui ne va pas nous éloigner d'une reconnaissance de différence historique, mais qui donne comme un socle d'une souffrance partagée au-delà même de transformation, rupture, mutation des configurations sociales.
Alors moi, je pense que cette idée de l'accoutumance, l'idée qu'on a que plus on souffre, moins on souffre, bon, pour aller vite, c'est une idée qui Bon, je ne sais pas jusqu'à quand elle remonte. Je ne suis pas assez érudite pour ça. Mais je sais qu'elle est extraordinairement ancrée, en fait, dans la mémoire. Et que c'est un stéréotype très confortable. C'est-à-dire que l'idée même que, puisqu'ils souffrent tant, bien sûr, l'habitude leur vient. C'est quelque chose que on vit à peu près que nous ressentons aussi tous les jours, peut-être par peur, peut-être aussi par aveuglement, comme je disais tout à l'heure. Mais si les historiens ont, je crois, enfourché cette idée à leur corps défendant, parce que je ne pense pas qu'ils l'aient fait avec une conscience absolue, c'est parce qu'effectivement, il y a aussi tout un apport de la médecine qui très souvent a indiqué que notre corps, effectivement, luttait contre la souffrance pour qu'elle soit moindre et que finalement, à force d'avoir été sur un champ de bataille découpé en trois morceaux, on ne s'apercevait plus qu'on vous retirait le quatrième. Enfin, je vais vite, mais... Et moi, ce n'est pas un reproche que je fais aux historiens, mais c'est aussi une idée très préconçue qu'on retrouve dans d'autres livres, dans des livres de sociologues, dans des livres de gens, d'auteurs importants qui ont écrit sur la douleur, et où il est toujours, presque toujours écrit que... selon les cultures, de toute façon, c'est sûr, on souffre autrement puisque c'est une autre culture, mais on souffre et que c'est peut-être la peur devant ce qu'est la réalité de la souffrance qui donne cette idée d'une accoutumance. Et pour moi, les archives me donnaient tellement de preuves inverses que j'avais envie de poursuivre ce chemin.
Je crois que c'est un des fils qui nous conduira, c'est-à-dire cette tension entre cet être homme qui peut être, comme dit Ricoeur aussi, du pâtir, oui, du souffrir, et puis d'autre part des modalités historiques qui font que les situations dans lesquelles les uns et les autres souffrent, ou les mots, et on y vient tout de suite, qu'ils peuvent employer pour désigner, s'ils peuvent, s'ils le veulent, cette souffrance sont historiquement variables. Et c'est cette tension-là qui me paraît essentielle. Alors, je disais que les mots, dans la mesure où vous commencez en soulignant les difficultés d'une telle enquête dans les archives, par un contraste, par une dissymétrie. Il y a ceux qui écrivent sur la souffrance et ceux qui n'en disent rien, ou presque rien, et qui, de toute façon, voient leurs mots transcrits par ceux qui les ont entendus et qui, pour une raison ou pour une autre, vont les coucher sur le papier. Et donc cette tension entre les écrits des uns et les silences, ou les mots fragmentés, les paroles proférées, mais transcrites par d'autres, des autres, est une première difficulté.
Alors c'est une première difficulté, bien sûr, parce que effectivement les mémoires et les correspondances sont diverses. Mais par ailleurs, ce n'est pas qu'une difficulté. C'est vraiment le résultat de situations sociales et l'impossibilité de la parole pour celui qui vient d'être renversé par un carrosse dans la rue ou qui se noie ou tant de choses qui peuvent arriver et qui sont décrites là. Je crois aussi que ça provoque une tension extraordinairement tragique parce que finalement, avoir des mots pour le dire, je m'excuse de l'expression si connue, mais avoir des mots pour dire, avoir des personnes autour de vous, autour de votre lit, autour de votre accident, pour vous écouter, vous entendre, ce n'est pas que vous ayez moins mal, c'est que vous êtes entouré et vous avez une sociabilité autour de vous, consolatrice, et qui en plus ne trouve pas cette souffrance évidente. Celui qui est renvoyé par le malheur de son travail à des souffrances terribles ne trouve autour de lui peu de mots, trouve par lui-même peu de mots pour le dire, et d'autre part n'est pas consolé ni par les institutions, ni par une sociabilité qui serait organisée autour de lui.
C'est la raison pour laquelle, dans ce livre comme dans d'autres, une des sources privilégiées, ce sont ces archives ou ces procès-verbaux des 48 commissaires de police de Paris, parce qu'eux recueillent des mots sur des souffrances, en particulier lorsqu'il y a plainte ou lorsqu'ils décrivent ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire une situation dans laquelle quelqu'un souffre. Du coup, il y a un accès possible à ces paroles, mais comme et vous dites de manière très belle quelque part, le statut de la source, cette source-là, induit des narrations de vies infimes souvent écorchées. En même temps, comme historienne, vous êtes à l'écoute d'une écoute. Puisque oui. Ce commissaire, il entend des paroles. Mm. Il va les transcrire au plus près, mais en même temps avec sa culture ou avec sa manière d'écrire ou de construire un récit. Et vous-même, vous êtes en surplomb par rapport à ce commissaire.
Mm. Oui, ça donne un éloignement forcé. Il me reste un intermédiaire, ce sont les témoins. Les témoins de l'accident qui commentent, se solidarisent ou non, disent quelques mots, très peu, souvent très peu, mais en tout cas apportent une certaine action immédiate. En tout cas, en ce qui concerne surtout les noyades sur lesquelles j'ai plus particulièrement travaillé, la recherche de celui qui s'est noyé est immédiate par tous ceux qui ont assisté à la noyade. Donc il y a quelque chose là de l'ordre d'une solidarité précaire parce qu'elle est souvent monnayée par de l'argent. Ça veut dire que bon, si on aide quelqu'un à sortir de l'eau, on va gagner un peu d'argent.
Vous montrez d'ailleurs qu'à peine sorti de l'eau, on lui pose des questions sur son identité.
Non, mais ça c'est absolument renversant parce que c'est quelqu'un qui est effectivement en train d'étouffer, rempli d'eau, hagard, les yeux hagards, effrayé, l'effroi est immense. Et là, il y a tout de suite la police qui lui demande son nom, son prénom, son adresse, dont il est en général totalement incapable de répondre. Et c'est ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de l'ordre d'une réflexion intéressante qu'a mené Foucault lui-même, enfin de l'ordre policier, qui tout de suite veut normaliser la chose, cette aspérité qui peut troubler l'ordre public, et que la médecine et la police vont faire un travail qui est un travail de réconciliation sociale avec beaucoup de maîtrise.
À cette première difficulté, donc cet écart, cette dissymétrie sociale des sources disponibles, s'en ajoute un second qui est cette irréductibilité entre ce qui est éprouvé, ce qui est ressenti, dont vous essayez de vous approcher au plus près. Et d'autre part, évidemment, le fait que pour un historien, ce ressenti, ce vécu, cette réalité intérieure, elle est à travers des mots. Et de là l'attention que vous portez à cette mise en discours de la souffrance, non seulement parce que c'est la seule possibilité pour s'en approcher, mais aussi parce que, et là vous citez un magnifique article ou essai de Paul Ricoeur, c'est le moment où il y a comme une conversion de la souffrance en douleur, comme si le Ricoeur utilisait les deux termes, non pas comme synonyme, comme je l'ai fait naïvement jusqu'à maintenant, mais comme étant ce qui est de l'ordre de l'expérience, du ressenti, et qui se donne comme douleur parce qu'elle s'exprime dans les mots. Et alors j'ai été frappé, parce que vous donnez beaucoup de citations, qu'il y a là encore une difficulté ou un piège, c'est-à-dire que les mots qu'ils emploient, les commissaires ou ceux qui écrivent et qui souffrent, sont des mots qui sont les nôtres, et en même temps qui peuvent être chargés de significations différentes. Par exemple, le mot « chagrin », qui pour nous a un sens qui n'est pas extrêmement fort, a un sens très fort dans les textes du XVIIIe siècle.
Le chagrin, c'est être dans un état d'une violence absolue, parce que c'est, à cette époque-là en tout cas, c'est être réduit à l'impuissance de la parole, et c'est le corps entier qui est chagriné. Voilà, étymologiquement, je crois d'ailleurs que ça veut dire froissé, totalement froissé. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est une conférence de Paul Ricoeur qui a été éditée après, entourée de commentaires, et où justement il travaille sur ce rapport, enfin ce rapport, ce qu'il estime une différence entre souffrance et douleur, et où il dit aussi la douleur oblige à montrer que l'être a un corps et un visage. Et qu'il habite entièrement, et que la souffrance, c'est souffrir. La douleur, c'est cette espèce de transmutation d'un corps en un état de chagrin qui n'a pas de mots ou qui, s'il en a, sont des mots, comme vous l'avez dit, universels. Enfin, universels, les plaintes, la plainte, le gémissement.
Alors pour la tension que vous avez aussi mentionnée, qui est cette tension entre, il y a, par définition, on pourrait dire, ou par essence, une douleur est unique et radicalement individuelle, et en même temps, la tâche de l'historien, ou du sociologue, ou de l'anthropologue, c'est de restituer des conditions partagées, qui sont des situations de souffrance, ou qui sont des lexiques, des vocabulaires pour dire cette souffrance. Alors, il me semble qu'il y a dans le livre deux manières d'essayer d'articuler ces deux éléments, ne pas abandonner ce qui est la définition même, finalement, d'un travail historien, sinon être versé dans une sorte de chaos indescriptible d'existence singulière, sans raison, sans régularité. Oui, de l'autre côté, de les oublier, comme vous disiez pour commencer, qui a pu être une tendance de l'histoire sociale, même lorsqu'elle s'était éloignée des statistiques et des données massives. La première manière pour vous, c'est évidemment ce que vous appelez l'accès au singulier. Et de là, l'importance de l'archive et le livre, peut-être nous n'en avons pas donné une bonne idée jusqu'à maintenant, est un livre qui écoute ces discours de douleur, soit ceux des élites, soit, comme on vient de le dire, ceux des commissaires. Et alors, cet accès au singulier, pour vous, est indissociable du fait que les douleurs sont des douleurs en situation. Vous dites toujours des souffrances en situation.
Oui, surtout des souffrances en situation, pour moi, parce qu'elles sont toutes... Même si elles sont partagées, comme si on prend des grands événements comme la petite vérole en 1723 qui fit tant de morts et qui n'a pas fait de partage social.
La peste de 1709 à Marseille.
La peste, etc. Ou les grandes épidémies. Même si le monde meurt. Alors, bon, pour la peste, on sait bien qu'il y en a qui se sont échappés dans leur montagne, dans leur maison de campagne pour échapper à la peste. Mais à Paris, en tout cas, la petite vérole fait énormément de morts, notamment les enfants, etc. Eh bien, cette chose presque insupportable qui se produit, c'est-à-dire que la crainte est telle que j'avais retrouvé un exemple dans des mémoires, c'est-à-dire que lorsque un des membres de la cour est atteint de petite vérole, le fait de traverser la galerie de Versailles avait provoqué 50 morts par contamination. Donc il y a une peur extraordinairement grande de ces maladies. Et qu'en même temps, il y a une sorte de... Il y aurait comme... Si on le voit par image ou association ou image filmique, comme s'il y avait deux maisons. La maison du riche et sa vie, et puis la maison des pauvres. Et les deux vont souffrir de la même façon et mourir aussi vite de la petite vérole. Ils ne mourront pas avec les mêmes mots, bien sûr, les mêmes pensées. Il y aura ceux qui vont croire à Dieu, ceux qui vont croire à diable, ceux qui vont penser que c'est incontournable, ceux qui vont s'épancher sur l'autre ou ne pas s'épancher sur l'autre. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui ne les réunit pas tout en les réunissant. Et c'était sans doute ça qui était le plus difficile à écrire. C'est d'arriver à ne pas faire de manichéisme, à ne pas porter de jugement quelconque, sur ils souffrent, les riches souffriraient moins, ce qui serait une sottise. Ne pas faire non plus, ne pas tomber, comme vous le disiez tout à l'heure, sur ce chaos indescriptible de nomenclature plutôt pénible, mais de réfléchir à la raison pour laquelle, si vous êtes dans un milieu aristocratique favorable, atteint de la petite vérole, vous ne voyez pas par la fenêtre que les autres l'ont aussi. Et quelle est cette énigme ?
Alors, ça nous permet de conclure peut-être cette première séquence avec un des mots du titre, parce que c'est une autre des manières pour vous de renouer cette relation entre le singulier et le collectif, mais justement en la renouant dans son envers. C'est le mot de déliaison, qui est aussi, on voit que vous employez très souvent d'autres mots, mais qui sont construits de la même façon, comme dessaisissement de soi, désinstallation de soi, comme si finalement que cette souffrance était à la fois produite par et productrice d'une séparation.
Oui.
D'une destruction du lien. Et alors ceci aussi avec des modalités sociales différentes, mais peut-être comme une constante dans la souffrance.
Oui, je pense que vous avez raison. Et les destructions du lien peuvent être totalement différentes. Il y a ceux qui parmi les classes les plus pauvres, ceux qui souffrent et vont tout de suite s'en indigner et vont tout de suite penser ou en tout cas suggérer que c'est de la faute d'eux, en tout cas s'indigner contre leurs conditions sociales. Il y a ceux qui vont être si abîmés par ce qui leur est arrivé comme fait inéluctable et constant, parce que hier, ils ont vu tant d'accidents dans la rue, aujourd'hui, c'est à leur tour, que leur réaction est celle justement d'être simplement accolés à leur conduite, assignés à leur conduite. Et que si on peut prendre un mot qui sans doute vous aimez bien, qui est celui d'habitus, on peut dire que c'est selon aussi l'incorporation en soi des habitudes et de l'habitus et du champ même dans lequel le corps a vécu qui va se traduire là. J'ai beaucoup apprécié un passage dans les méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu où il explique justement que le corps a une très grande importance et quand il est exposé à la souffrance, c'est sa manière de rejoindre le monde extérieur est liée effectivement à ces formes-là, à cet habitus. Et il prend un paragraphe qui est vraiment très très beau, je ne sais pas par cœur, mais d'où il parle justement des souffrances et des émotions qui font que ceux qui les ont vécues sont en fait empreints d'habitus déchirés. Et ce terme, je trouve très fort pour...
Je crois que pour conclure cette première séquence, nous pouvons associer à cette référence que vous venez de faire, évidemment une référence à Robert Castel, puisque cet autre grand sociologue avait introduit dans nos manières de penser cette idée de la déliaison sociale, avec un sens plus particulier qui était celui effectivement d'un processus d'exclusion radicale par la perte du lien social, en particulier par la perte du lien du salariat. Mmh. Mais ici, dans votre livre, avec cette extension, puisque l'on peut être, on peut devenir en quelque sorte séparé de sa communauté.
Oui.
On peut être séparé par les fractures objectives du monde social. Et on le verra peut-être dans notre seconde séquence, on peut être séparé de soi-même.
Oui.
L'individu comme délié de ce qu'il était. Cet après-midi, en compagnie de Mozart, nous présentons dans un dialogue le livre d'Arlette Farge, La déchirure, souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle. Ce livre, vous l'avez construit comme un diptyque, Arlette Farge, peut-être guidé évidemment par les réalités objectives du monde social et aussi par la nature qu'on a discuté des sources. Une première partie est consacrée aux souffrances de ceux qui écrivent et qui écrivent les souffrances, leurs souffrances. Plus que les souffrances des autres, très souvent, puisque le point de départ était leur indifférence à celle des gens de peu. Beaucoup de textes viennent pour vous des mémoires, des journaux, des correspondances. On va isoler peut-être deux thèmes. Le premier qui est celui selon lequel les blessures de l'âme, les blessures de l'amour propre, les blessures de la perte se transforment, sont mues en troubles du corps. En désordre physique, on retrouverait le thème du chagrin qui est très présent dans ces textes. C'est-à-dire que vous portez l'attention sur des situations dans lesquelles se traduit corporellement une discordance entre ce que les individus espèrent, attendent, veulent représenter d'eux-mêmes, et puis d'autre part des situations dans lesquelles cette attente ou cette espérance est déçue et se heurte à la méconnaissance de l'autre, l'humiliation, la frustration. Et l'on voit donc que le livre n'est pas seulement sur ces souffrances évidentes, immédiates, terribles, qui sont celles des corps malades, ou des corps en voie de destruction, mais aussi ces souffrances-là, parce que ces souffrances de l'âme sont aussi des souffrances corporelles.
Oui, moi j'ai été extrêmement frappée par le nombre de correspondances où effectivement l'auteur... se sent absolument perclus de rhumatismes, de douleurs qu'il essaie d'analyser comme il peut, pour lesquels il cherche beaucoup de médicaments, il convoque les médecins ou d'autres charlatans d'ailleurs. Et en fait, pour expliquer qu'en plus, le terrible de la situation, c'est que demain, il ne pourra pas assister à tel conseil royal s'il est à la cour du roi, mais même pour des personnes qui sont des marquis ou des duchesses de moins grande importance, c'est l'idée même qu'ils vont perdre une place dans la situation sociale dans laquelle ils sont habitués de vivre, d'être, de réfléchir, de penser, d'échanger, est pour eux une douleur énorme. Alors déjà, ça va renforcer effectivement leur maladie, mais par ailleurs, pour certains autres, c'est le fait même d'avoir été déconsidéré un jour par une réflexion, par une vexation, qui va les rendre absolument malades, perclus de très grandes douleurs, comme si... C'est assez moderne, une espèce de somatisation existait déjà, alors le mot est anachronique totalement, oui, pour l'époque.
La somatisation est moderne, ce qui est le retour de l'historicité dans vos pages, c'est le fait que dans une société comme celle, qui est encore celle du XVIIIe siècle, société d'ordre, oui, société d'État, toute forme de distinction, de hiérarchie est immédiatement visible. Et toute forme de discordance entre ce que l'on pense être et ce que l'on voudrait que les autres pensent que vous êtes, et d'autre part des situations dans lesquelles cela ne fonctionne pas, deviennent des blessures, et dans les deux sens du terme.
Mais justement, il y avait un dossier qui m'avait absolument passionné d'un charlatan, parce que quelquefois les plus aisés ne font pas confiance aux médecins, donc ils vont voir des charlatans, et ce charlatan avait une liste de médicaments étranges, des rhubarbes chinoises au nom imprononçable. Mais pour soigner, alors on soignait à la fois les piqûres, les épidémies, les fièvres, mais on soignait aussi pour avoir bonne réputation, pour être bien considéré dans son milieu, pour ne pas subir de vexations, qui font partie du même ordre que, effectivement, de ce que nous appellerons les maladies traditionnelles. Donc, une maladie traditionnelle, ça serait aussi être mal considéré par son voisin. Et cette liste-là, que j'ai reproduite dans le livre, m'avait vraiment passionnée comme signification, comme significative.
C'est là où on retrouverait le Mozart d'Elias. C'est parce, oui, qu'il y a discordance entre, oui, une attente peut-être impossible de liberté d'une création, d'une subversion des règles, et en même temps des contraintes objectives que les dernières années, à partir de ce magnifique concerto jusqu'en 1791, sont marquées par une intense souffrance, et où là se démêle difficilement ce qui est lié à cette mal-être social, et d'autre part une souffrance de l'homme qui, comme je le disais, se sent mal aimé et peut-être ne s'aime plus lui-même. Alors la société d'ancien régime renforce ce que vous décrivez
beaucoup,
là.
Oui.
Elle renforce aussi, là peut-être une citation qui vient des mémoires d'une des compagnes ou confidentes de Madame de Pompadour, Madame du Hausset. Elle renforce dans la mesure où les rôles, les fonctions sont plus importants que les individus qui les occupent. Elle écrit, Madame du Hausset, « Rien ne fait plus d'effet chez les princes que leurs égaux mourants. tout le monde en est occupé, mais aussi dès qu'ils sont morts, personne n'en parle plus. Comme si finalement, un modèle qui est celui, le roi qui ne meurt jamais, parce que la dignité royale ne meurt pas, et le roi comme individu, lui, est vulnérable, souffrant, mortel, et peut-être l'objet de l'oubli.
Oui, puis Madame.
Et donc de là, dans la monarchie française, le roi est mort, vive le roi. Et donc il y a cette double effet, c'est-à-dire que c'est des sociétés où la distinction dépend du regard de l'autre, comme vous le dites aussi, de la place dans l'étiquette, dans la préséance. Et quand il y a discordance, il y a souffrance. Mais c'est aussi une société où finalement que le rôle de la place de l'individu est soumise à cette hiérarchie des positions.
Mais en plus, en ce qui concerne ce passage de Madame de Hausset sur la mort, ce qu'elle sous-entend et ce qui suit d'ailleurs après, c'est la précipitation juste après l'enterrement, avec laquelle tout le monde se joint pour savoir qui sera le prochain, qui va remplacer le mort. C'est comme on dirait une espèce de jeu de cartes morbide, très très curieux. Il est mort, donc on remet en place les cartes et qui sera le prochain. Et bon, il y a même une aristocrate, Mademoiselle de Bruls, qui en mourra presque ou qui en deviendra folle parce qu'elle aura été déconsidérée dans sa prison, dans sa cellule à la Bastille, elle deviendra vraiment totalement folle de cela.
C'est peut-être une des différences entre les sociétés que vous décrivez puis des sociétés modernes, puisque là, on voit clairement que les fonctions sont habitées par des individus
Absolument,
singuliers,
oui.
beaucoup plus que
oui.
des individus qui sont détenteurs par leur propre puissance de fonction.
Ben oui, c'est une inversion.
Et alors le deuxième thème, vous l'avez déjà évoqué pour cette partie, ce premier volet du diptyque, c'est cette ambivalence par rapport au discours médical, puisque les médecins sont très présents dans votre livre. Mais dans ces élites du XVIIIe siècle, on voit d'un côté qu'ils ont connaissance du discours médical et ils l'emploient assez volontiers pour décrire, par exemple, une correspondance entre un marquis et une marquise, reprend des... Et en même temps, vous venez de le dire, avec ce charlatan, il y a une énorme méfiance par rapport à ceux qu'ils appellent, enfin que certains appellent les médecins de faculté et qui ne guérissent pas. Comment on peut comprendre cette contradiction entre le fait qu'ils sont dans la médecine, ils en font profit pour utiliser des termes, pour avoir peut-être des diagnostics sur leurs mots, et en même temps la persistance de ces remèdes personnels ou de ces charlatans. Comme
moi, je pense que ça s'explique relativement facilement. C'est-à-dire qu'encore à cette époque, les médecins guérissent peu quand même. Et donc, effectivement, si l'on veut voir le bout du tunnel de ces souffrances, on est encouragé par tout le voisinage à découvrir un nombre très impressionnant au XVIIIe siècle de personnalités qui vont vous offrir des soulagements plus ou moins particuliers et avec lesquels on va avoir un rapport autre d'ailleurs, parce que socialement c'est un rapport autre qu'avec le médecin. Avec le médecin, on a quand même quelque chose qui, à la fois, on est un dominant si on a un aristocrate, mais en même temps, on est dominé par son savoir, mais on s'aperçoit qu'à force de 10 saignées par jour, on est toujours aussi malade. Donc, on va préférer des élixirs qui ont quelque chose qui semble plus doux. Et effectivement, on va vite se renseigner. En plus, ce sont des choses qui marchent par de bouche à oreille. Et on va pouvoir aller prendre, non pas des médecines douces, parce que si on comprend bien leurs résultats, elles sont aussi très brutales. Et en plus, elles entretiennent un rapport plus d'égalité, plus commercial, plus marchand entre l'aristocrate et en fait ce commerçant qui s'avérera un charlatan, qui aura des procès. C'est pour ça que je les retrouve dans les archives. Qu'on paye très très cher. Alors que le médecin, on ne le paye pas si cher parce qu'on est du même milieu.
Vous en donnez un exemple dans les Mémoires secrets de Duclos, qui relate la mort de la duchesse de Berry en 1719, de cette tension entre l'attrait ou l'attirance pour les empiriques, oui. et puis lorsqu'on est entre les mains des médecins, l'impossibilité de le faire. Non effrayée, elle s'occupe uniquement de son dernier moment pour obtenir les sacrements. On lui propose l'élixir de Garus qui était dans sa première vogue, d'après les médecins. Garus l'administra lui-même, veillant à ce qu'aucun purgatif ne soit ajouté, sinon son élixir tournerait en poison. La duchesse parut ranimée, mais le médecin Chirac, qui sacrifierait plutôt le malade que de laisser le bien de la guérison à un empirique, fit alors prendre un purgatif à la malade et qu'aussitôt, elle tourna à la mort la nuit du 20 au 21 juillet. Alors on rappelle ici que ce Chirac était le médecin du régent, rendu célèbre aussi par Tavernier, dans que la oui. fête commence le film. Alors en diptyque avec ces chagrins des élites, les souffrances populaires, et ici aussi vous voulez prendre un peu le contre-pied de ce qu'on a pu écrire un peu hâtivement, qui était le fait qu'au XVIIIe siècle, il y aurait réduction des violences entre les individus, donc réduction des blessures, des peines ou des douleurs infligées par cela, parce que le Paris que vous décrivez, que vous avez lu dans les mémoires, les procès-verbaux des commissaires, est un Paris de la violence. Je voudrais juste citer un texte de vous, c'était un entretien récemment donné à l'occasion d'un atelier d'écriture que vous avez organisé à la Bibliothèque nationale de France. Il régnait, vous dites à la personne qui vous interroge, une grande violence à Paris au XVIIIe siècle, surtout chez les plus pauvres. J'ai appelé cela les vies fragiles. La discipline historique n'a pas été suffisamment attentive aux événements minuscules, aux vies minuscules. Je pourrais me définir comme une historienne du tragique ordinaire. Je crois que ce livre d'aujourd'hui est tout à fait la traduction de cette définition. Mais le point de départ, c'est l'idée qu'il y a une omniprésence de la violence.
Il y a une omniprésence de la violence, mais cette violence-là, je n'entends pas tellement. Enfin, oui, bien sûr, il y a beaucoup de rixes et de bagarres, mais j'entends la violence qui vous tombe dessus, je veux dire l'accident.
La ville est dangereuse, la ville est violente.
Voilà, la ville est un peu apocalyptique, sans exagérer. Vraiment, la ville est violente, sans même qu'il y ait une rixe. En plus, il y a les rixes dans les cabarets, etc. Mais là, c'est quand même... Ça aussi, c'est quelque chose de très, très saisissant. Et c'est cette violence-là, c'est cette violence-là qui, sans doute, fait le plus... J'allais dire fait le plus souffrir, ça veut rien dire, mais est sûrement la plus détestée, en tout cas sur lesquelles les réactions sont les plus fortes par rapport à ceux qui entourent, ceux qui ont été blessés, parce que elle vient du carrosse qui va trop vite, elle vient des conditions, par exemple des ouvriers du bâtiment qui sont insupportables, ou de ceux qui sont dans des ateliers où les vapeurs mercuriales les rendent fous et très très malades. Donc elle vient de l'institution, elle vient de l'ordre. Et là, effectivement, je crois que c'est cette violence-là qui, à mon avis, est presque... Justement, on ne peut pas dire que c'est une forme de régulation sociale, comme on l'a souvent dit, que les violences, c'était des formes de régulation sociale. Moi, je ne sais pas pourquoi on a dit ça, mais c'était très à la mode à un moment. Alors, les émeutes, peut-être, sont des formes... Mais ce n'est pas pareil. Et donc, j'ai trouvé aussi que, sous le mot violence, il y avait une espèce de polysémie sur laquelle on ne s'était jamais interrogé, et qu'il y a des formes de violence qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et qui sont, en plus, du fait de personnages extrêmement différents dans la hiérarchie sociale. Et que, du coup, ça change complètement la donne, si j'ose dire.
Du coup, ça vous permet de montrer qu'avec cette violence qui est quasi écologique, qui est des conditions de travail, des conditions d'existence, oui, du monde urbain. Si on admet, comme vous l'avez fait avec cette magnifique citation de Pierre Bourdieu, que le monde social s'inscrit dans les corps, s'inscrit dans les pensées, dans les schémas de jugement, d'appréciation, mais il s'inscrit aussi immédiatement dans les corps. Ces corps-là sont en... harmonie, si j'ose dire, pour le pire, souvent, avec cette violence qui est la violence du monde social, comme si la structure de la personnalité renvoyait à ce que vous appelez la dureté du monde.
Mais c'est cette jonction-là qui est intolérable, et c'est celle-là qui est étonnamment non vue. Alors, elle est vue par certains médecins, mais à la fois, elle n'est pas vue, parce que, par exemple, les médecins de la Société royale de médecine envoyés dans toute la France en 1775... Ils vont commencer leur rapport par « je n'avais jamais vu que ». Comment est-ce possible que des médecins parisiens, etc., disent « je n'ai jamais vu que ». Bon, là, ils sont obligés de voir par leur fonction et par l'ordre donné par le roi. Mais d'où vient ce « je n'ai jamais vu » et pourquoi ? Et c'est pour ça que je parle d'énigme. Quelle est, et je crois quand même dire à un moment, quelquefois, les raisons de ce « je n'ai jamais vu », c'est que c'est dégoûtant à voir, comme le dit au sens strict du terme, le voyageur Smollett, médecin lui-même, qui va décrire une population. C'est un texte qui, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, est-ce que je le mets dans le livre ou pas ? J'ai tout absolument saisissant.
C'est un texte d'autant plus saisissant de cet Anglais qui voyage en France, qu'il avait été lui-même le traducteur de Don Quichotte, ce qui aurait peut-être pu conduire à une plus grande compréhension du monde social que celle qu'il traduit dans cet absolu aveuglement et mépris.
Mais oui,
stigmatisation.
Parce que stigmatisation, il les traite d'insectes. Évidemment, les femmes sont hideuses. En plus, ils ont tous des têtes de mort. Bon, je veux dire, il y a tout dans ce texte. Il y a tout. Il y a tout et il y a tout résonne avec aujourd'hui, quelquefois.
Nous nous approchons de la fin de cette émission. Alors peut-être un mot sur, dans ce convolet du diptyque, vous avez porté l'attention sur des lieux, des situations de violence. Les unes sont liées à l'atelier, au conflit du travail, entre les apprentis et les maîtres, les compagnons et les maîtres et les jurés. Mais peut-être que nous pourrions terminer avec une autre attention que vous avez portée, parce que là aussi, elle va à contre-pied de ce qui avait pu peut-être être des conclusions tirées des archives judiciaires, des procès devant le Parlement, et qui sont les violences faites aux femmes, depuis les plus jeunes jusqu'aux femmes seules ou jusqu'aux épouses, lorsque la source est changée, c'est-à-dire non pas des cas jugés par le Parlement, mais des plaintes recueillies par les commissaires, vous rencontrez un très grand nombre de ces violences, et parfois dans les pires cruautés.
Oui, mais je crois qu'il faut commencer par dire que, justement, curieusement... le viol, puisqu'il s'agit du viol, et surtout les indécences vis-à-vis des petites filles, contrairement à ce qui a pu être dit, est quelque chose qui absolument désoriente toute la population, le voisinage, les mères, bien sûr, les parents, les pères, à un point extrêmement fort, et que très souvent on a fait l'amalgame entre ces indécences-là, ces viols, avec toutes les autres rixes habituelles, effectivement. Si ce n'est que lorsqu'on ne s'intéresse pas que à ce qui passe en appel au Parlement et qui est quand même très rare, surtout dans les classes populaires, et qu'on passe par le manuscrit plus simple, c'est-à-dire la plainte portée, on s'aperçoit que ces moments-là sont extrêmement fréquents. Et non seulement ça, c'est ça encore. On pourrait le comprendre, mais comment ne pas s'apercevoir à quel point l'indignation est plus que grande et qu'il n'y a aucune recevabilité de la part de la population qui entoure ces
viols. Et aussi parce que la question, comme vous le dites très bien, c'est une question non seulement de blessure des corps, mais aussi une question de l'honneur.
De l'honneur, de la réputation, bien sûr, bien sûr.
Qui est un point fondamental dans les deux types de violences. C'est-à-dire que très souvent, ces violences masculines de rixes naissent d'une insulte à l'honneur.
Oui.
Et le scandale qui est lié avec ces violences faites aux femmes et aux filles est aussi lié et d'une autre manière avec l'honneur.
Tout à fait. Mais il serait aussi intéressant de comprendre pourquoi on parle beaucoup de violences faites aux femmes, etc. Il serait vraiment aussi intéressant de comprendre pourquoi ces violences faites aux femmes... on dit maintenant aussi que les femmes sont violentes, mais c'est un autre volet, que ces violences faites aux femmes ne sont absolument pas admises ou très très peu admises au XVIIIe siècle, alors qu'on l'a cru pendant très longtemps que c'était quasiment normal.
Mais est-ce que dans ce cas-là, puisqu'il y a scandale, vous montrez très bien qu'il y a un scandale public, plainte devant le commissaire, est-ce que ce n'est pas un contrepoint un peu à la déliaison sociale ? C'est-à-dire qu'autour de certaines formes de violence se constitue une solidarité de communauté ou de famille, et que finalement, il y a là... quelque chose qui est de l'ordre d'une reconstitution d'un tissu affectif et de sociabilité.
Alors moi, je vous suivrai aisément sur ce point et je dirais aussi que ça remet au goût du jour, ou en tout cas, ça pose question sur justement l'affiliation, les sentiments maternels et paternels dont il a souvent été question, mais qui n'ont jamais été travaillés profondément. Et il y a solidarité des voisins, c'est sûr, mais il y a aussi les affects qui sont les affects qui viennent des familles, des parents, et que dans le quartier ne peut pas être indifférent. Et une place de la femme, surtout lorsqu'elle est jeune et lorsqu'elle est enfant, dont il est intolérable de l'avoir bafouée.
Qui serait donc, dans ce cas-là, un des moments dans lesquels quelque chose se reconstitue d'un tissu social déchiré par la violence et la souffrance.
Oui, parce que là, je veux dire, à partir de ce moment-là, il y a véritablement indignation, pas révolte, je n'ai jamais rencontré, mais en tout cas, quelque chose qui fait accuser les rois, d'ailleurs, de leur licence. Il y a quelque chose qui se porte vers tout ce qu'a été le libertinage au XVIIIe siècle, comme si c'était, comme si eux pouvaient vivre ça et faisaient ce qu'ils voulaient et avaient des amants et des maîtresses et faisaient ce qu'ils voulaient, comme le roi Louis XV au parc aux cerfs, mais que là, il y avait un honneur dans une famille populaire qui ne pouvait pas tolérer ce type d'action. Pardon.
On voit que le livre tente presque l'impossible, mais le réussit, c'est-à-dire de s'approcher au plus près de cet sentiment intime de la souffrance, mais vous voulez presque aller encore plus loin, puisque quelque part, ce qui vous paraît fondamental, c'est ce que vous appelez la trace singulière de la douleur. Non seulement la douleur ressentie et qui s'exprime à travers des mots écrits ou des mots proférés, non seulement, comme vous le montrez, dans les lieux de détention, lorsque la souffrance annoncée produit déjà un effet avant même d'être ressentie. Et là, il y a tout un lexique du saisissement, de l'épouvante, de la frayeur, et qui a des traductions corporel, somatique, le tremblement. Mais peut-être on peut terminer avec cela parce que c'est le plus profond et le plus difficile, cette souffrance comme traumatisme, la souffrance qui laisse des traces. Alors est-ce qu'on peut le saisir ça dans les archives, quelles qu'elles soient ? La souffrance qui n'est plus, non pas la souffrance qui va advenir, mais la souffrance qui n'est plus, mais qui pourtant laisse une trace durable.
Alors, c'est très difficile à saisir dans les archives, il faut le reconnaître, mais ce que je pense profondément, c'est qu'il y a la mémoire de ces traces et que cette mémoire, elle est constante, elle est vive et elle, comment dire, peut-être qu'elle irradie encore aujourd'hui, je n'en sais rien, mais elle est extrêmement profonde, mais qu'elle se fait dans le souvenir et qu'il y ait quelquefois dans les archives des commissaires de police, il est fait allusion à ce que, non pas, il n'y a pas le mot traumatisme, bien sûr, parce que ça serait anachronique, mais que quelque chose s'est défait. Et je reviendrai là à la déliaison, justement, que la violence qui s'est passée, la blessure qui s'est passée, ou le viol qui s'est passé, a défait. Et le souvenir de cette défection est là, présent.
Vous signalez un moment où quelqu'un est interrogé par un lieutenant de la police ou un commissaire. On lui demande son état et il répond « être malheureux ».
Mais ça,
est-ce que ce n'est pas aussi une traduction de cela, c'est-à-dire cette mémoire d'une souffrance qui dure ?
C'est sûrement ça et c'est l'impertinence aussi de la question et l'intelligence de la réponse.
Lundi de l'Histoire vous ont été présentés aujourd'hui par Roger Chartier en cet après-midi. Ils ont été consacrés au livre d'Arlette Farge, La déchirure, Souffrance et déliaison sociale au XVIIIe siècle. C'est un livre qui a été et est publié aujourd'hui même, 2 septembre, par Bayard. La prise de son de cette émission a été assurée par Jacques Cazubert, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'Histoire, dans cette nouvelle année, vous seront présentés par Philippe Levillain.